VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 15h à Kigali, bienvenue à notre journal. Politique en Guinée, le président Alpha Condé exhorte les Guinéens à se préparer à un référendum et à des élections, accréditant encore plus l'hypothèse d'une candidature à sa propre succession malgré l'obstacle constitutionnel. C'est ce qui ressort d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections, affirme le président Condé dans cette vidéo datée du 22 septembre, postée sur Facebook et abondamment reprise ce mardi par les médias guinéens. Monsieur Condé a rencontré lundi des membres de la communauté guinéenne à New York en marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État guinéen achève son deuxième mandat en octobre 2020 et la Constitution nationale l'empêche d'en assumer un troisième. Mais Alpha Condé, à son poste depuis 2010, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats présidentiels sans aller toutefois jusqu'à proposer ouvertement une réforme constitutionnelle. À noter que le président Condé a été reçu par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a appelé à une transition du pouvoir démocratique et honnête en Guinée, ce qui impliquera des institutions plus fortes et moins de corruption, a souligné le département d'État. Toujours concernant l'Afrique de l'Ouest, au Libéria, pays ravagé par une épidémie d'Ebola de 2014 à 2016, plus de 10 000 professionnels de la santé sont en grève depuis lundi pour réclamer le paiement des salaires et l'approvisionnement en médicaments des hôpitaux. Ce mouvement a provoqué l'inquiétude des femmes enceintes et des jeunes mères qui ont manifesté à Monrovia, la capitale. Plus de précisions avec Ekia Badou.
Nous sommes en grève à travers le pays, a déclaré George Williams, secrétaire général de l'Association des travailleurs de la santé du Libéria. Selon lui, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, pas de matériel de protection comme des gants. Il ajoute que les labos ne sont pas équipés et la plupart des travailleurs n'ont pas encore reçu leur salaire de juillet alors qu'il faut payer les frais de rentrée scolaire. Craignant les conséquences de ce débrayage, une quarantaine de femmes enceintes et de jeunes mères de famille ont organisé hier une manifestation près du centre de santé de Duport Road dans le nord de Monrovia. Le ministère de la Santé s'est refusé à tout commentaire. Le Libéria, un des pays les plus pauvres du monde, a été durement éprouvé par les guerres civiles de 1989 à 2003. Le gouvernement du président George Weah, au pouvoir depuis début 2018, n'arrive pas à endiguer l'inflation galopante. Cette morosité de l'économie frappe de plein fouet le secteur de la santé, déjà très sinistré par l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016.
Épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo maintenant, la RDC va recourir à un deuxième vaccin expérimental anti-Ebola dès la mi-octobre. Décision annoncée lundi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que MSF, l'ONG humanitaire Médecins sans frontières, accuse de rationner le vaccin des laboratoires Merck, le seul utilisé à ce jour contre l'épidémie. Des accusations rejetées par l'agence onusienne. Les précisions avec Irénée Herman Ungo.
Selon l'OMS, ce deuxième vaccin expérimental fabriqué par Johnson & Johnson et qui requiert l'administration de deux injections à 56 jours d'intervalle sera administré à des populations à risque dans des régions de la RDC où il n'y a pas de transmission active du virus Ebola. Très critiqué par Médecins sans frontières pendant l'épidémie en Afrique de l'Ouest pour la lenteur de sa réaction et pour n'avoir pas mesuré l'ampleur de la crise, l'OMS a depuis entrepris une profonde réforme de son fonctionnement. L'ONG accuse cette fois l'agence onusienne de rationner le vaccin des laboratoires Merck tout en relevant que les raisons derrière ces restrictions restent obscures. MSF rejette aussi l'argument d'une crise d'approvisionnement. Merck vient de déclarer qu'en plus de 245 000 doses déjà livrées à l'OMS, ils étaient prêts à envoyer 190 000 autres doses si nécessaire et que 650 000 autres seraient mises à disposition dans les 6 à 18 prochains mois. Pour le moment, l'épidémie de la fièvre à virus Ebola a fait plus de 2100 morts dans l'est de la RDC.
Au Rwanda voisin, assassinat d'un responsable d'un parti d'opposition près de Kigali, la capitale. Selon Victoire Ingabire, chef du parti FDI Inkingi, formation non reconnue par les autorités, la victime, Siridio Doussa Boumou Rémi, a été attaqué par deux hommes lundi soir dans le magasin où il travaillait. Après plusieurs assassinats non résolus de membres de notre parti, nous n'avons aucun espoir que son meurtre fasse l'objet d'une enquête approfondie et soit élucidé, a souligné Mme Ingabire. Pour sa part, la police rwandaise fait état de l'arrestation de deux suspects et de l'ouverture d'une enquête.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, le président américain Donald Trump retrouve aujourd'hui la tribune de l'ONU à l'occasion de la 74e Assemblée générale de l'Organisation mondiale pour exposer entre autres sa stratégie sur l'Iran qui suscite des interrogations dans un climat de vive tension. Depuis les attaques du 14 septembre contre deux installations pétrolières saoudiennes attribuées par Washington et Riyad à la République islamique d'Iran, M. Trump se montre trois tours menaçant et apôtre de la retenue. Le point avec Jean-Roger Bion.
Face aux représentants des 193 États membres des Nations Unies, Donald Trump, en quête d'appui sur l'Iran, pourrait mettre en sourdine ses attaques contre le multilatéralisme. Depuis que le président américain est sorti en 2018 de l'accord international visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne insistent sur la nécessité de sauver le texte existant. Donald Trump, qui prendra la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies juste après l'un de ses admirateurs déclarés, le Brésilien Jair Bolsonaro, aura probablement aussi à cœur de parler à sa base électorale à quelques 400 jours du prochain scrutin présidentiel. Vieux routier de cette grand-messe diplomatique annuelle, le président iranien s'exprimera, lui, mercredi. Autre dossier sur lequel M. Trump est attendu, le Venezuela. Depuis que les États-Unis, suivis par une cinquantaine de pays, ont reconnu en début d'année l'opposant Juan Guaido comme président par intérim, la situation a peu évolué. Les États-Unis veulent s'assurer que la question de la transition politique au Venezuela reste une priorité de la communauté internationale, souligne un haut responsable américain. Une ombre planera sur son discours, la menace d'une procédure de destitution agitée par l'opposition démocrate après les révélations sur les pressions qu'il aurait exercées sur l'Ukraine pour nuire à son potentiel rival démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden.
Toujours concernant l'actualité hors d'Afrique, en Israël, le président Reuven Rivlin procède depuis lundi à des consultations avec le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu et son principal rival Benny Gantz. Le chef de l'État essaie de les convaincre de former un gouvernement d'union nationale après les législatives qui n'ont pas réussi à les départager. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Le président Rivlin a commencé à Jérusalem des discussions hier dans la soirée avec messieurs Netanyahou et Gantz après avoir terminé ses consultations avec l'ensemble des formations élues au Parlement. Il doit désigner demain mercredi celui qui aura le mandat de former le prochain gouvernement. Il pourrait ainsi mettre fin aux 13 ans de règne de Benjamin Netanyahou. Ni Netanyahou à la tête du parti de droite Likoud, ni Benny Gantz qui dirige le parti centriste bleu-blanc n'est en mesure de réunir 61 députés, la majorité absolue au Parlement. Le parti de Benny Gantz, avec ses 33 sièges, a reçu le soutien de la gauche et d'une partie de la liste unie des formations arabes israéliennes. Mais cela ne lui octroie que 54 sièges. Le Likoud de Benjamin Netanyahou a 31 sièges et il n'est en mesure de rassembler que 55 sièges avec ses alliés religieux et de la droite nationaliste. M. Gantz et Netanyahou ont tous deux appelé à la formation d'un gouvernement d'union, mais chacun veut en prendre la tête.
Politique au Royaume-Uni, le président de la Chambre basse du Parlement britannique, John Bercow, a invité les députés à siéger à nouveau dès demain. Après la décision de la Cour suprême jugeant illégale la suspension du Parlement, la plus haute instance judiciaire du pays a unanimement rejeté aujourd'hui la suspension du Parlement décidée par le Premier ministre Boris Johnson et estimé que les législateurs pouvaient à nouveau siéger dès que possible. Une décision spectaculaire et une défaite majeure pour le chef du gouvernement. Le leader du parti d'opposition travailliste Jeremy Corbyn a aussitôt appelé Boris Johnson a démissionné. Et pour terminer, en Algérie, un incendie dans la nuit de lundi à mardi à Oued Souf, localité proche de la frontière tunisienne dans le nord-est, a coûté la vie à 8 nourrissons dans une maternité. Nous avons réussi à sauver 11 nourrissons, des mamans et aussi 28 employés de l'établissement, a souligné le capitaine Nassim Bernaoui, un responsable de la protection civile locale. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.